Alors donc, la question que nous voulions poser aujourd'hui, c'est toute une réflexion autour de quand la chirurgie de l'esthétisme féminin devient une autre forme de violence faite aux femmes. Et on m'a donc donné comme parole l'avis des femmes. Alors je me suis retrouvée avec, mais comment vais-je faire pour vous porter l'avis de toutes les femmes? Je ne suis qu'une femme parmi toutes les autres femmes ici présentes et toutes les autres femmes occidentales dans nos sociétés occidentales qui peuvent subir ou en tout cas avoir un avis sur la question. Alors forcément, je suis une femme parmi les femmes, mais je suis une femme également de ma génération, avec forcément mes repères de société par rapport à mon âge, mon histoire. J'étais toute petite fille, j'avais 3 ans en 68, donc inutile de vous dire que je n'en ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était quand même un moment, je pense, par rapport au corps, à la nudité, à peut-être une démarche pour certains d'acceptation du corps et de la relation à l'autre, de la nature. C'était un moment, je pense, très très particulier où il n'y avait pas encore beaucoup de demandes, je pense, de nymphoplastie à l'époque. En 67, la loi Neuwirth, puis les premiers décrets d'application en 72, permettent en France la contraception et la loi Veil en 75, l'interruption volontaire de grossesse. Et on revendiquait le fait que le corps nous appartenait et notamment à nous, les femmes. Adolescente, ma sœur me prête quasi sous le manteau le rapport Haidt qui était sorti quelques années plus tôt. Et alors là, grand choc culturel, les tabous autour de la sexualité féminine se levaient et on parlait de sexualité féminine de manière incroyable, y compris à des âges très différents, puisque il y avait des témoignages de 14 à 78 ans, avec une volonté aussi de découvrir son corps, de découvrir sa sexualité avec le plus de liberté possible. C'était avant les années SIDA, bien évidemment, et je crois que ça aussi, ça a beaucoup changé les choses, évidemment. Mais c'était sans doute quelques décennies bénies où il y avait la contraception et il y avait une certaine idée de la sexualité et de découverte de son corps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque j'étais adolescente, j'étais certaine que tous les combats de nos aînés pour nos droits et notre place et notre position au sein de la société occidentale, nous les femmes, avaient été vraiment magnifiques et que nous avions des acquis absolument indéboulonnables. Malheureusement, je ne dirai plus du tout cela aujourd'hui et j'espère que les générations de demain, les jeunes ici présentes, mais aussi nos filles ou nos petites filles, ne baisseront jamais la garde parce que si on regarde au niveau international la position de la femme et si on voit aussi, si on essaye de regarder dans notre société occidentale l'évolution des choses, personnellement, je serais plutôt un petit peu inquiète. En tout cas, restons vraiment vigilantes, à mon avis, et ne baissons pas la garde. Alors, forcément, je vous parle comme une femme de ma génération, mais aussi comme une sage-femme. Et comme toutes mes consœurs et confrères, forcément, et j'ai croisé au cours de ma vie professionnelle bien des femmes, bien des histoires différentes, des intimités, des corps, des sexes aussi, tous différents. J'ai aussi beaucoup rencontré des adolescentes, puisque j'ai coordonné pendant quelques années une activité d'info-ado, c'est-à-dire que nous allions dans les collèges et les lycées parler de sexualité. Donc voilà, j'ai pu croiser beaucoup de regards d'adolescents aussi sur leur corps et sur leur sexualité. Et puis forcément aussi des femmes mutilées, puisque j'ai travaillé aussi quelques années autour de cette problématique. Et en tout cas, des histoires individuelles de femmes, de jeunes, tous différents les uns des autres. Parce que nous naissons tous différents avec nos imperfections, nos spécificités, nos caractéristiques. Nous naissons de races et de sexes marqués au sein d'une culture donnée dans un espace spatio-temporel défini. Nous sommes ici et maintenant, et nous sommes marqués par notre naissance, par notre évolution aussi. Nos corps évoluent, velus, chétifs, glabres, trapus, myopes, longilignes, plantureux, angulaires, arrondis. Et puis, le temps modifie aussi nos corps. Le temps fait son œuvre, les maladies, les épreuves, les cicatrices aussi, que ce soit les cicatrices physiques comme les cicatrices psychiques. Ce corps devient le fruit de notre expérience, de notre nature, de nos vies, de notre âge aussi, de nos expériences comme de nos blessures. Il est notre identité visible. Et je ne suis pas sûre qu'en changeant cette identité visible, on puisse se passer forcément de Prozac. Mais il faut avouer que nous avons tous des petits arrangements avec la vérité toute nue. Alors, peut-être ça n'est plus du sang de chauve-souris ou de la fiente de je ne sais quoi, mais forcément, le parfum déjà. Le parfum, nous modifions les signaux que nous donnons à l'autre, nos phéromones, notre odeur naturelle, les teintures de cheveux, les crèmes anti-rides. Bref, nous avons tous, à un degré ou un autre, des petits arrangements avec cette vérité-là. Tout de même, entre la nudité de Lennon et de Yoko Ono et celle de Lady Gaga aujourd'hui, il s'est passé, je pense, beaucoup de choses dans l'image de la femme et de l'esthétisme féminin. La question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est jusqu'où la médecine peut-elle aller? Selon quelle éthique, selon quels critères? Je pense que l'orateur qui va me suivre pourra peut-être nous aider à réfléchir à jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on accepte de faire, qu'est-ce qu'on accepte de changer. Et au-delà, la question que j'ai envie aussi de vous poser, c'est quelle société nous souhaitons demain pour nos filles et pour l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur corps de femme? Et forcément, je n'ai pas tellement envie de me taire aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, parce que je suis aussi mère, je suis aussi citoyenne, et puis être actrice de ce monde, autant que tout un chacun, c'est aussi pouvoir dire ce qu'on pense, ou en tout cas essayer de penser avec vous tous et essayer de réfléchir ensemble. Alors bien sûr, autour de la chirurgie, de l'esthétisme féminin, j'aurais pu aborder les implants mammaires et puis avec tous les problèmes d'implants trafiqués ou en tout cas pas aux normes, les indications abusives, les ratés de la chirurgie, le refus de vieillir, le modelage de la norme, l'énorme business quand même financier autour du corps et de la mode. Franchement, c'est un gros business financier. Et puis celles qui demandent non pas une intervention, mais 10, 15, 20 interventions. Mais je vous propose plutôt de rester pour faire suite à la première partie de cet après-midi sur tout ce qui concerne les actes de bistouri autour du sexe féminin dans nos sociétés occidentales. Comme l'a dit Richard tout à l'heure, la définition selon l'OMS des types 4, on sait que les types 1 et 2 et 3 sont excision, infibulation, mais le type 4, c'est toutes les autres mutilations sexuelles pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques. Alors, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, j'ai été atterrée par ce que j'ai trouvé. Je vais essayer de partager avec vous. J'ai trouvé énormément de sites de médecins, de cliniques en France, de chirurgie esthétique autour de la chirurgie intime. Alors, je pense que c'est l'association de ces deux mots qui marche le mieux sur Google et sur les moteurs de recherche. Vous verrez, c'est assez édifiant où on nous explique donc que la nymphoplastie de réduction correspond à la chirurgie esthétique des petites lèvres tombantes ou trop développées au niveau de la vulve de la femme et que l'intervention chirurgicale consiste à retirer la portion excédentaire des petites lèvres. Mais le docteur S, elle, nous explique qu'en fait la taille finalement n'est pas trop le problème. Les petites lèvres peuvent être gênantes esthétiquement ou lors des rapports, même si elles ont une taille inférieure à 4 cm, car la notion de gêne est personnelle et n'est pas transposable d'une femme à l'autre. Donc, nos limites. Un autre médecin, chirurgien esthétique, et qui écrit sur son site qu'il est le grand spécialiste de la nymphoplastie et qu'il opère à la fois en Suisse et à Paris, a fait une étude tout à fait étayée sur ses pratiques et il dit que 100% de ses patientes avaient une gêne esthétique. 76% une gêne vestimentaire, notamment liée au string, parce que vous comprenez, quand on porte un string, c'est très gênant d'avoir une lèvre de chaque côté du string. Je vous jure que j'ai trouvé des choses incroyables. Peut-être aurait-il pu dire à la patiente qu'éventuellement elle pouvait porter un autre sous-vêtement, ou peut-être pas de sous-vêtement du tout, c'est pas mon problème, mais opérer pour pouvoir porter un string, ça m'interpelle. Une gêne également à la pratique du sport, équitation, VTT. Et avec ces gênes vestimentaires ou pratiques de sport, j'ai repensé à l'image que nous a montrée Henri Jean tout à l'heure sur ces lèvres qui poussent ou ce clitoris qui risquait de pousser et de gêner à la marche, nous disait l'exciseuse tout à l'heure. Et voilà, cette gêne vestimentaire, pour moi, je l'ai aussi associée à ça. Et 37% disaient qu'elles avaient une gêne modérée ou importante lors des rapports sexuels. Le docteur Abbé, dans le 17e, nous explique tout sur son geste opératoire. Alors là, c'est de la grande poésie, je vous le dis tout de suite, parce que je ne pensais pas que c'était possible. « Nous allons nous adapter, nous dit-il, à l'anatomie de la patiente. C'est tout simplement comme par exemple, quand vous mettez un pull dans une machine à laver, le pull va en sortir plus petit, mais gardera ses proportions et la même forme. » Alors là, je me suis dit, comparer le sexe des femmes à un pull dans une machine à laver, c'est de la poésie. Alors, j'ai continué mon exploration et le docteur S.A. nous révèle quand même quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, que de la graisse pouvait s'accumuler sur la zone pubienne, la partie comprise entre... c'est du copier-coller, je vous jure que je n'invente rien. La partie du corps comprise entre les organes sexuels et le bas-ventre, aussi appelé monde Vénus chez la femme, ce qui peut être très complexant, surtout lorsque la femme est nue ou en maillot de bain. Vous n'aviez pas de problème avant d'aller voir ces sites, je peux vous dire. Alors là, vous êtes très mal après. Enfin, elle a une solution, la liposuction du monde Vénus. Le docteur D.E. va plus loin. S'il ne fait pas de lipo, enfin, soit vous avez besoin d'une liposuction, soit il est trop décharné, notamment chez les femmes âgées ou trop minces, et on peut vous en rajouter pour que justement il soit plus bombé. Cette même chirurgienne vous propose, au cas où la nymphoplastie ne vous intéresse pas, elle peut aussi augmenter le volume de vos grandes lèvres. Car l'objectif, dit-elle, est de rendre les grandes lèvres de la vulve plus pleines et épaisses. L'augmentation du volume des grandes lèvres redonne toute sa sensualité à la vulve en créant un aspect plein, donc plus jeune et tonique. Un peu plus loin, elle nous explique que les grandes lèvres sont pleines et ventrues, donnant un aspect jeune à la vulve. L'amplification du point G dont nous parlait Richard tout à l'heure. Alors là aussi, donc on injecte, alors on n'a pas encore quand même complètement démontré l'existence, tout ça du point G, ça reste encore très débattu, mais déjà on vous propose d'injecter un truc derrière, comme ça, si ça marchait, à chaque coït, quand même, il serait beaucoup plus stimulé. Bon, le problème, c'est que les produits de comblement diffusent et qu'il faut quand même répéter l'exercice au bout de quelques mois. Donc, c'est une rente quand même assez intéressante. Dans une autre clinique prestigieuse du 17e, le docteur Abbé propose aussi de restaurer le calibre vaginal, de resserrer en fait l'orifice vaginal. Je vais passer. Ce même docteur Abbé nous parle de la reconstruction de l'hymen et nous dit très fièrement qu'il a été à l'origine de la popularisation et de la démocratisation de cette intervention il y a plusieurs années dans notre pays. C'est une intervention, regardez là encore, c'est de la grande poésie quand même. C'est une intervention qui va permettre d'une façon psychologique que cette patiente se refasse, se remette. Ce n'est pas seulement en vue d'un mariage qu'elle souhaite cela, mais très souvent aussi parce qu'elles ont eu une histoire romantique avec un homme et que cet homme les a lâchées. Ils se sont tout simplement séparés et elles ont envie de se réintégrer, de se réhabiliter. Magnifique ce mot, réhabiliter quand même. Et un peu plus loin, il nous dit encore une fois, reconstruire la membrane, c'est reconstruire la personnalité de la patiente. Waouh ! Je n'étais pas au courant que ma personnalité se trouvait là. Les prix, bof, ils varient. En tout cas, ils sont généralement très conséquents. Alors, je dois vous dire que il y a un moment, je me suis arrêtée parce que plus je parcourais ces sites, plus la nausée m'envahissait quand même, hein, au bout d'un moment. D'autant plus, alors je ne les ai pas reproduites ici, j'ai préféré les mots qui étaient plus poétiques, on va dire, mais les photographies censées montrer combien ces sexes féminins étaient vraiment disgracieux ne reflétaient, en tout cas à quelques exceptions près, que la multitude des sexes féminins normaux. Et on sait tous, je veux dire, dès qu'on a une pratique autour du corps de la femme, bah, que tous les sexes sont différents et que dire que la norme c'est comme ci ou comme ça, c'est juste pas possible. Alors, il est très difficile d'avoir des chiffres autour de ce type de chirurgie. J'ai un petit peu cherché, je sais que Richard a cherché aussi. Ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est que ça nous arrive beaucoup plus depuis environ 2-3 ans en France, mais un peu plus longtemps dans les pays anglo-saxons, et que notamment dans les hôpitaux britanniques, le nombre de labioplastie, mais là il y a marqué labiaplastie, a été multiplié par 5 en 5 ans. Et qu'ils font maintenant aussi face à des demandes de petites filles à partir de 11 ans. Alors, on peut se demander pourquoi cette réalité est grandissante maintenant. Peut-être aussi parce que le rasage intégral est de plus en plus devenu la norme et la mise. Et que du coup, quand il n'y a plus de poils, eh bien, on voit beaucoup plus les détails. On évoque, comme disait Richard, des images aussi de plus en plus accessibles de sites pornographiques. La chose qui arrive aussi beaucoup dans les demandes aujourd'hui, c'est la dépigmentation de la vulve et de l'anus, comme le font beaucoup d'actrices porno pour avoir une vulve et un anus rose. Et donc, il y a maintenant des demandes de ce type. Parallèlement à ça, est-ce que ce ne serait pas aussi une histoire de faire disparaître tout ce qui est normal et naturel après la puberté, c'est-à-dire qu'on enlève les poils, on dépigmente, on veut que rien ne dépasse, comme un sexe de petite fille. Et moi, je me pose quand même franchement des questions sur l'image et l'image qui est véhiculée à travers cet esthétisme-là. Et parallèlement, bien sûr, à une hypersexualisation des fillettes de plus en plus fréquente. Alors, bien sûr, comme on disait, peut-être c'est une manière différente, mais peut-être je n'ai pas compris, mais voilà. Pour moi, est-ce que c'est réellement prendre possession de son corps que de le modifier à travers des actes comme ça? Est-ce que c'est aussi un changement d'habillement? Mais les jeans moulants, ça existait déjà bien avant. Alors, face à tous ces questionnements, et je vais m'arrêter pratiquement là, c'est l'avant-dernière, lorsqu'on se sent un peu perdu, il convient de revenir peut-être à l'essentiel, à l'origine du monde peut-être. Et puis, alors, je voudrais, avec Courbet, célébrer avec lui cette origine du monde, et j'aimerais qu'on puisse laisser à l'origine du monde tous ces mystères et à chaque femme son authenticité. Je vous remercie.
Thank you.